Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Christ est ressuscité, alléluia.
Il est vraiment ressuscité, alléluia.
Voilà, nous sommes toujours dans cette octave de Pâques et voilà, c'est bien de se le rappeler parce que le début de semaine a été évidemment un petit peu perturbé par le décès du pape François. Vous nous avez parlé longuement mardi midi sur l'antenne de Radio Présence du regard que vous portiez sur le pontificat du pape François. Donc on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais on va parler de votre semaine sainte parce que avant de dire Christ est ressuscité, eh bien, il y a eu évidemment la semaine sainte que vous avez vécue dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec les communautés paroissiales, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la semaine sainte que vous avez vécue ?
Avec plaisir, notamment le symbole de ce qu'est l'église cathédrale dans le diocèse, évidemment. Donc j'ai été beaucoup à la cathédrale, le dimanche avant Pâques pour les rameaux, pour la célébration du dimanche de la Passion et des rameaux et de la Passion. Et puis on s'y est retrouvé mardi soir avec, pour le coup, tout le diocèse, après avoir passé la journée avec les prêtres, diacres et séminaristes du diocèse, pour la célébration solennelle et très très belle, je dois le dire, de la messe chrismale, avec beaucoup beaucoup de gens du diocèse présents.
Beaucoup de familles.
Beaucoup de familles, le chœur diocésain parfait, fait une belle liturgie à la fois paisible, sobre et très très belle, voilà, autour des différentes huiles nécessaires pour la célébration et puis pour les sacrements tout au long de l'année. Et puis, cette messe d'ailleurs était diffusée par Radio Présence pour
pour
toute la région, puisque le Triduum Pascal était lui ensuite en direct depuis l'abbaye de Tournaille, donc... Voilà, la messe chrismale était aussi depuis le diocèse. Après cela, je suis revenu à nouveau à la cathédrale pour la célébration, la messe en mémoire de la scène du Seigneur, donc le jeudi saint au soir. Voilà, pour une célébration paroissiale, fort, fort, fort belle, fort priante, vraiment. Et comme c'est l'usage, le vendredi saint, j'étais dans une paroisse du diocèse. Donc la première année, je crois, j'avais été invité à Luz, Saint-Sauveur. L'année dernière, j'étais en Barousse. Et puis cette année, j'étais à Argelès, voilà, où j'ai participé à la célébration de la Passion et de la vénération de la Croix. Avant de revenir dans mes zones plus solennelles, on va dire, pour la célébration de la Vigile Pascale, que j'ai choisi pour la première fois de célébrer non pas à la cathédrale, mais au sanctuaire de Lourdes. Donc j'ai présidé la vigile pascale à la basilique Saint-Pilice. J'ai été impressionné de la foule qui était là, présente.
Ça y est, les pèlerins sont revenus.
Lorsqu'on est sorti de la basilique pour nous rendre sur le lieu où avait été préparé le feu, devant les portes de la basilique du Rosaire, la basilique Saint-Pilice était déjà pleine. Et quand j'étais sur le parvis de la basilique du Rosaire, l'esplanade du Rosaire était pleine aussi. Et tout ce monde-là s'est retrouvé dans une basilique Saint-Pilice absolument comble, pour une célébration très internationale, avec beaucoup, beaucoup de pèlerinages extérieurs qui avaient choisi de venir célébrer Pâques à Lourdes. Et donc, voilà, une manière différente pour moi de vivre la vigile pascale. J'avoue, c'était à la fois très très beau, très ample, très solennel, mais je peux confier sur les ondes de Radio Présence que tout de même, je préfère malgré tout présider cette célébration-là à la cathédrale avec mes diocèses.
On ne le répétera pas trop fort, mais
voilà, je le partage ici très, très simplement, même si la célébration était absolument magnifique. Et puis le lendemain, le dimanche de Pâques, le matin de Pâques, comme c'est l'habitude aussi, j'ai célébré le jour de Pâques avec les prisonniers de la maison d'arrêt de Tarbes et l'équipe d'aumônerie. Alors à Noël, c'est à la prison de Lannemezan, au centre de détention, et là c'était la maison d'arrêt à Tarbes.
Alors comment ça s'est passé? Parlez-nous un petit peu de la manière dont ces prisonniers vivent la résurrection du Christ.
Écoutez, ils l'ont vécu avec foi. Ils étaient d'habitude, ils sont limités à 15 pour participer à la messe en prison, et là ils avaient été autorisés à être 15.
D'habitude
ils sont 10 et là ils ont été autorisés à être 15, et donc ça faisait la salle où se passe la messe est assez petite, c'est le parloir où ils reçoivent leur famille habituellement. Ah oui. L'équipe d'aumônerie avait vraiment très très bien décoré le lieu pour en faire un vrai lieu de prière et de célébration, avec des éléments de joie, etc. Sur les murs, des dessins que les enfants apportent à leur papa, emprisonné, et punaisé là sur les murs qui entourent la pièce, qui ferment la pièce. Voilà, les gardiens ont eu la délicatesse, après avoir accompagné les prisonniers, de s'effacer, de disparaître, de nous laisser seuls avec eux. Et c'était un moment extrêmement sobre, fraternel, chantant, priant et finalement joyeux. Un faisant la lecture, l'autre... Bon. Et puis après la messe, il y a un partage de gâteaux, de quelques boissons que l'équipe amène. Et puis des échanges à ce moment-là, beaucoup d'échanges. Et petit à petit, il y a des visages qu'on se reconnaît. Il y a toujours des visages nouveaux, évidemment. Mais il y a aussi des visages que je retrouve à chaque fois. Soit parce que la personne est toujours là sans avoir été jugée, oui. Soit parce qu'elle est rentrée, sortie, rentrée, sortie, re-rentrée. Bon, voilà. Quand je suis arrivé, au début de la célébration plus exactement, un des prisonniers avait préparé un petit mot d'accueil, de bienvenue, bon, dans lequel il remerciait l'évêque d'être là plutôt que dans sa cathédrale. Et quand j'ai repris la parole, je leur ai dit qu'ils étaient ma cathédrale ce matin de Pâques. J'ai bien vu qu'ils étaient très touchés du propos, et puis moi j'étais très heureux d'être avec eux, parce que, comme chaque fois, quel que soit, alors évidemment j'ignore pourquoi les gens sont là, mais c'est pas le problème, c'est les enfants de Dieu, et des enfants de Dieu qui ont fait du mal, et qui souffrent à leur tour, et qui sont là parce qu'ils croient en Jésus-Christ sauveur, et je sais, en écoutant, en rencontrant les membres de l'équipe d'aumônerie, que de vrais chemins spirituels sont vécus dans le cadre de la prison. Et donc, je suis là pour leur manifester la miséricorde de Dieu et son amour inconditionnel pour tous ses enfants, qui n'exclut pas, évidemment, la justice des hommes, et qui, sur un chemin de vérité, l'exige même. Mais ce qui demeure et doit demeurer toujours, c'est la miséricorde et l'amour de Dieu pour ses enfants, pour les créatures à qui il a donné la vie. Et donc c'est cela qu'il faut signifier. Le matin de Pâques est une bonne nouvelle absolument pour tous et aussi pour eux. Et donc là, personne ne fait le malin, personne ne roule des mécaniques, personne ne joue un personnage. Parce que les masques sont tombés, parce qu'il y a une humanité vraie et simple, et que ça me fait du bien aussi de vivre notamment Noël et Pâques dans ces conditions. J'y reviendrai au mois de juin pour célébrer avec eux le jubilé des prisonniers aussi.
Ah voilà, un moment très important. Là, on peut souligner aussi le travail remarquable des équipes d'aumônerie de prison.
C'est admirable.
C'est vraiment un lieu de miséricorde.
Elles sont là, les membres de ces équipes, sans démagogie. C'est pas les bons, c'est eux, les méchants, c'est tous les autres qui ont rien compris à leur souffrance. Ils savent qu'ils ont affaire à des gens qui ne sont pas des enfants de cœur, mais ils sont un vrai visage du Christ et donc de l'Église dans ce lieu d'une certaine détresse humaine, mais aussi, étonnamment, d'un chemin de vie possible.
Est-ce qu'il y a de l'espérance dans ces lieux? Puisque c'est le jubilé de l'espérance.
Chemin de vie et chemin d'espérance possible. Et dans l'homélie, j'ai souligné ça, en effet.
Alors, on va parler maintenant de Lourdes, puisque vous y étiez pour la veillée pascale le samedi saint. Il y avait beaucoup de monde, on l'a bien compris. Beaucoup plus que ne peut en contenir la cathédrale Notre-Dame de la Cède, on a bien compris aussi. Tous ces pèlerins qui reviennent, c'est vrai, en masse à Lourdes, là, avec ce début de saison... Ils découvrent, et on n'en a pas parlé encore, vous et moi, dans cet entretien hebdomadaire, ils découvrent les mosaïques de la basilique du Rosaire recouvertes. Alors c'est quelque chose dont on avait déjà parlé l'année dernière, la décision n'avait pas été prise. Là, cette fois-ci, les pèlerins découvrent les mosaïques de Rupnik recouvertes.
Alors, pas toutes les mosaïques, mais les mosaïques qui sont sur les portes d'accès à la basilique. Et comme je l'ai expliqué déjà au moment où les travaux de cette nouvelle décoration, si j'ose dire, ont été enclenchés, et par hasard, ça a coïncidé avec le début de l'assemblée plénière et au début de l'assemblée plénière, la session que nous avions, les évêques, avec des victimes, des associations de victimes, des personnes qui les accompagnent, etc., de victimes d'abus sexuels dans l'Église. C'est de cela dont on parle, hein. C'est pas de choses générales et lointaines. C'est des choses extrêmement concrètes, extrêmement douloureuses et qui nous font honte. Bon, au moment de la remise du rapport de la CIAZ, avait été pris un rendez-vous 3 ans après pour faire le point, et ça coïncidait avec ce moment-là. Bon. Et donc, comme je l'ai expliqué, une des symboliques de l'année jubilaire, c'est les portes saintes qui ont été ouvertes à Rome. Par le Saint-Père, et ça fait écho au témoignage entendu souvent de la part de victimes qui considèrent que la présence des mosaïques du Père Rupnik, là où elles sont à Lourdes, sont un obstacle pour entrer physiquement et spirituellement dans le sanctuaire et donc dans le message de Lourdes, parce que précisément elles recouvrent les portes d'accès de la basilique, et là où elles sont, ces portes d'accès-là, symboliquement, c'est aussi les portes d'accès du sanctuaire, finalement, et de la grotte, puisqu'il faut passer là pour accéder à la grotte. Et donc, il nous a semblé important, avec le recteur, en cette année jubilaire, de rendre plus facile l'accès au sanctuaire, et par là au message de Lourdes, pour toutes les personnes pour qui le message de Lourdes est de manière privilégiée offert par le Seigneur, et donc des personnes en souffrance, des personnes qui viennent se reconstruire auprès de la Vierge Marie Immaculée Conception, et donc d'atténuer un obstacle majeur à cette démarche de leur part.
Il y avait déjà eu les lumières qui étaient retirées.
Les lumières qui ont été éteintes au mois de juillet dernier, et puis maintenant les mosaïques des portes qui sont recouvertes par une décoration qui reprend la décoration déjà là de la façade de la basilique du Rosaire, et aussi avec la reprise du logo de l'année jubilaire.
Mais c'est quelque chose qui va rester même après l'année jubilaire.
Absolument.
Voilà. Et alors, est-ce que vous avez déjà eu des réactions de personnes victimes qui avaient pu vous interpeller
Alors, les réactions que j'ai eues, aussi bien de personnes victimes que d'autres, et j'ai envie de dire, les autres m'intéressent aussi autant que celles des personnes victimes.
Alors, c'est qui les autres?
De la part des personnes victimes, les réactions sont des réactions très, très positives. Vraiment, un remerciement très fort adressé au sanctuaire de Lourdes, qu'ils veulent considérer comme un lieu prophétique de cet engagement de l'Église à leur égard, et pas seulement en parole, mais aussi par des actes concrets qui sont posés. De leur part, c'est interprété dans ce sens, et ça m'encourage, évidemment, ça nous encourage, je ne suis pas seul dans l'affaire. Et d'autre part, les autres personnes, c'est des gens qui, il y a un an, ne comprenaient pas bien cette insistance, et même aller jusqu'à évoquer l'idée que peut-être nous étions sous pression médiatique ou pression de victimes, etc., et pas bien libres de faire ce que en conscience on estimerait raisonnable de faire, et notamment de séparer l'auteur de l'œuvre, et voilà, tout un argumentaire qu'il est juste d'avoir de manière habituelle. Bon. Et qui ont fait du chemin, dans le cas particulier du sanctuaire de Lourdes, de Marco Rupnik, des mosaïques de Rupnik, là où elles sont sur la façade de la basilique du Rosaire, et qui sont de plus en plus nombreuses à convenir qu'en effet, il y a une vraie question, et qu'on ne doit pas raisonner ce lieu précis de manière générale, mais pour ce qu'il est précisément. Et moi, je me situe toujours comme gardien de la grotte et du message de la grotte et du message de Lourdes, et non pas comme gardien de musée, bien évidemment, mais même comme quelqu'un qui agit de manière théorique ou générale sur la base de principes généraux qui s'appliqueraient partout sans discernement.
C'est vrai que vous êtes aussi le pasteur des pèlerins qui viennent à Lourdes.
Je suis le pasteur des pèlerins qui viennent à Lourdes, et en particulier de celles et ceux qui ne peuvent plus y venir depuis la révélation des scandales liés au père Rupnik, auteur de ces mosaïques.
Merci pour cet éclairage, Monseigneur Mika. Alors, on va terminer avec encore un autre sujet. On revient à la vie du diocèse, puisque dans quelques jours, le 4 mai, il y a un rendez-vous. Dimanche 4 mai, un rendez-vous très important que vous avez voulu vraiment souhaiter pour le diocèse. C'est un pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de Pietate. C'est un rendez-vous qui s'inscrit dans l'année jubilaire.
C'est ma conviction depuis que je suis dans le diocèse, depuis 3 ans, que notre diocèse a quelque chose à voir avec la présence de Marie.
Oui.
Non seulement à cause de Lourdes, mais aussi en raison des autres sanctuaires importants, mariaux, historiques, anciens, qui jalonnent notre pays, notre diocèse. Et il y a une identité mariale forte dans ce diocèse en particulier, et donc j'ai souhaité que l'année jubilaire soit l'occasion de vivre ce qui nous est proposé, cette année de l'espérance, en compagnie de Marie, et donc de jalonner le calendrier de l'année, de rendez-vous réguliers avec nos sanctuaires mariaux, avec la Vierge Marie. Voilà. Et donc, après l'ouverture de l'année jubilaire, tout début janvier, eh bien, le 4 mai sera notre tout premier rendez-vous diocésain dans un des 5 sanctuaires mariaux où je donne rendez-vous au diocèse tout au long de l'année. Le dernier, ce sera à l'occasion du pèlerinage diocésain à Lourdes, bien évidemment. Oui. Et entre l'ouverture de l'année jubilaire début janvier et puis le pèlerinage diocésain au mois d'octobre, il y a 4 autres rendez-vous qui sont donnés dans les différents sanctuaires mariaux du diocèse. Ce sont bien des rendez-vous diocésains, donc on commence à Pietate, et puis il y aura Garaison, Pouet-la-Hun et Eas, ou Eas et Pouet-la-Hun, je ne sais plus.
Pouet-la-Hun en juillet et Eas en septembre.
Et voilà, Pouet-la-Hun en juillet, Eas en septembre, et Lourdes en octobre, voilà. Et donc notre tout premier rendez-vous diocésain, ce sera à Notre-Dame de Pietate le 4 mai.
Voilà, et tout le monde est invité, évidemment, à vous rejoindre, à venir découvrir ce lieu de prière pour le diocèse. Il y aura des marches dans la matinée, un pique-nique, un temps d'échange, enfin de pique-nique et de temps convivial le midi, et puis dans l'après-midi, des propositions spirituelles et la messe célébrée à 15h, une messe que vous célébrerez, évidemment, Monseigneur Mika.
Je le présiderai, nous la célébrerons tous.
Nous la célébrerons tous et vous la présiderez. Voilà, merci d'ajuster. Merci beaucoup, Monseigneur Mika. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Anne-Rose, et très bonne semaine à tous nos auditeurs.